de vos dons et talents. La première chose que je voudrais dire, c'est que vous avez un sixième sens. Alors, je voudrais dégonfler ce mythe, c'est que on a l'impression que le sixième sens est quelque chose de totalement ésotérique, qui ne serait l'apanage que des voyants, que des médiums, quelque chose qui serait réservé à une toute petite partie des gens, un peu comme l'oreille absolue. En fait, c'est simplement pas vrai. Tout le monde a un sixième sens. En fait, je pense que l'un des problèmes, c'est ce que j'appellerais l'erreur de Descartes. C'est-à-dire que Descartes a dit, voilà, je pense donc je suis. Pour lui, la pensée, donc c'est-à-dire l'activité du cerveau organique, est ce qui définit en fait notre être. Et ça, je pense que c'est une erreur fondamentale qui nous a amené en fait dans des chemins qui sont peut-être pas ceux que nous aurions pu suivre. Mais toujours est-il que le fait de définir l'être, notre existence, à partir de notre pensée, est une aberration totale. Donc si Descartes avait lu un petit peu sur le bouddhisme, il aurait peut-être réfléchi à deux fois. Je vais vous donner un exemple. Effectivement, la pensée est un attribut de votre être. Mais ceux qui méditent savent très bien qu'on peut très bien interrompre sa pensée, c'est pas pour ça qu'on n'existe plus. De même, on peut très bien ressentir des émotions, des sensations, sans qu'elles passent forcément par la pensée. Donc au niveau fondamental, la pensée n'est qu'une activité du cerveau organique. Ce qui nous appartient véritablement, eh bien, c'est le langage de l'univers, c'est l'énergie. Quelque part, la pensée, c'est une forme dégradée de l'énergie. Ce sont des échanges électrochimiques dans notre cerveau organique. Donc, quand il dit « je pense, donc je suis », eh bien, je pense qu'il fait une petite erreur. Le vrai sujet, c'est, pour le dire tout simplement, c'est « j'interagis avec l'énergie, je ressens, donc je suis ». Il aurait pu dire « j'aime, donc je suis ». Parce que le sixième sens, c'est une capacité que nous avons tous, c'est la capacité à sentir et à exprimer l'énergie. Donc si vous avez un jour aimé quelqu'un, si vous avez un jour ressenti une forme d'énergie sous forme d'émotion, sous forme de peur, sous forme de colère, sous forme de sous forme de tout élément qui ne passe pas par le domaine de la pensée, si vous avez ressenti l'énergie pure d'une certaine façon, l'émotion pure, eh bien, vous avez un sixième sens, vous avez une capacité à sentir et à exprimer cette énergie. Et c'est le cas de tout le monde. Alors, bien évidemment, tout le monde n'a pas le sixième sens aussi développé, mais c'est une caractéristique relativement commune. Et ça traduit de nombreuses façons, une certaine forme de sensibilité, par de l'empathie, par de l'intuition. Tout le monde a des histoires qu'il a vécues ou que des proches ont vécues d'intuition extraordinaire. Ou du fait de dire, bah, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à cet ami, et puis d'un seul coup, cette personne nous appelle. Donc tous ces éléments-là, eh bien, font partie du sixième sens, c'est notre capacité à nous connecter au flux d'énergie globale. Le seul point, c'est si vous êtes messager de lumière, eh bien, ça fait partie des choses que vous avez reçues, parce que vous avez une connexion avec l'au-delà, avec les dimensions spirituelles. Vous avez ce navigateur, vous avez ce canal de téléchargement. Alors, il est plus ou moins ouvert, sauf que ce canal existe. Et étant connecté à une énergie, on va dire, de fréquence plus élevée, vous êtes connecté de façon plus intime à la toile d'énergie de la Terre. Et ça veut dire que vous avez des capacités qui vont être plus développées que la moyenne, et vous avez aussi ces capacités qui peuvent être plus développées et s'incarner plus simplement dans un ou plusieurs talents. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas conscience de ces talents, si vous ne prenez pas conscience de ces dons, si vous n'apprenez pas à les maîtriser, eh bien ces bénédictions peuvent se transformer en malédictions, elles peuvent vous causer beaucoup de souffrance et beaucoup d'incompréhension, et je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples de tout ça. Donc, comme toute forme de puissance, eh bien tout dépend de ce que vous en faites. C'est un peu comme si vous avez parachuté au milieu de la forêt vierge pour une opération spéciale. Voilà, vous êtes déguisé, vous êtes sous couverture, et vous avez avec vous une arme d'origine extraterrestre. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et vous appuyez sur les boutons, et si vous vous appuyez pas sur les bons, ça risque de vous exploser à la figure. Ou alors, au contraire, vous allez vous dire, ah, ça y est, je me souviens maintenant, je sais comment ça marche. Et grâce à ça, vous allez pouvoir accomplir votre mission de sauvetage, votre mission humanitaire. Donc il est très important pour vous de prendre conscience de l'existence de votre sixième sens, de ses incarnations en termes de dons et de talents, et de voir comment est-ce que vous les développez, et c'est justement tout l'objet de cette partie. Mais avant, je voudrais juste attirer votre attention sur, les nuisances que cause l'abondance de biens. Parce que vous recevez des informations qui vont au-delà du monde matériel. Donc vous avez ce sixième sens, vous avez vos cinq sens, vous avez ce sixième sens qui est un sens purement énergétique. Et le problème, c'est que ça arrive même quand vous ne le voulez pas. Et donc, ça peut vous rendre la vie très difficile parce que chaque talent poussé un peu trop fort, eh bien, ça peut amener à des souffrances. Si vous êtes en empathie forte avec des personnes qui sont dans la douleur, eh bien, ça peut causer pour vous une forme de dépression. Si vous êtes très sensible, vous allez réagir à toutes les choses. Donc, si il y a trop de lumière, trop de bruit, vous allez vous sentir agressé. Vous allez aussi peut-être avoir énormément d'anxiété à propos de situations extrêmement banales de la vie. Et donc ça peut causer chez vous des perturbations émotionnelles très fortes. Et pour les fuir, la tentation, eh bien, c'est de se réfugier dans des addictions, dans des comportements destructeurs. Ça peut être l'alcool, la drogue, des relations destructrices, des troubles d'alimentation, une fuite dans le travail, dans l'isolement, le fait de se faire du mal. Donc ce ne sont pas tant ces perturbations en elles-mêmes, et effectivement elles posent problème, mais ce sont aussi les réactions que nous pouvons avoir et ce que nous mettons en place pour les éviter ou pour les fuir. Donc, important d'être conscient de cette sensibilité, de ces talents, de ce sixième sens, d'être bien capable de voir ce qui se passe, et aussi de le maîtriser, d'apprendre à le développer, plutôt que de le nier et de le fuir, ce qui peut causer de très grandes souffrances et de très grands inconforts, très grands problèmes dans le monde matériel et aussi sur le plan spirituel. Donc quelle serait la solution? Moi je pense que la solution n'est pas dans la fuite, elle est dans l'acceptation de votre mission de service. Alors, je vais vous donner l'exemple d'une voyante. C'est quelqu'un qui, pendant des années et des années et des années, a refusé son don. Et ce qui se passe, c'est que, pour elle, le fait d'avoir le don de voyance, d'être capable de voir ce qui allait se passer dans le futur, était une aberration. C'était pas du tout la culture de sa famille, et le don lui est tombé dessus, et elle l'a refusé très longtemps. Et en fait, son environnement, au fur et à mesure du temps, a commencé à devenir extrêmement hostile à son endroit. Elle a eu des problèmes matériels à n'en plus finir, parce que, d'une certaine façon, elle était en conflit avec elle-même, et comme elle avait ses capacités de sixième sens très fortes, peut-être ses capacités de manifestation ou de loi d'attraction très développées, eh bien, son conflit intérieur se retraduisait à l'extérieur. Et c'est uniquement quand elle a dit « Ok, c'est bon, je sais pourquoi je suis là, je fais mon job, je fais mon boulot, je fais mon travail », que là, les choses ont commencé à aller mieux pour elle. C'est comme si elle avait débloqué d'un seul coup tout un tas d'éléments karmiques négatifs, si vous voulez, comme si elle avait débouché le tuyau, et là, l'eau a pu recommencer à couler claire. Et elle s'est sentie beaucoup mieux, et ça a résolu énormément de ses problèmes matériels. Donc, la fuite ne résout rien. Si vous avez des dons, des sensibilités particulières, vous ne pouvez pas les nier. Elles sont là, ça fait partie de vous. Donc il vaut mieux apprendre à les connaître et à les développer. Parce que l'acceptation, quelque part, ne résout pas tout. Il y a un travail et des choses à mettre en place. Parce que vous devez développer votre maîtrise. La maîtrise de votre talent, la maîtrise de votre don, et surtout ne pas tomber dans les pièges de votre mission. Parce qu'à partir du moment où on commence à rentrer sur ce chemin, c'est-à-dire, bah oui, finalement, il y a peut-être quelque chose de spécial me concernant, si je suis différent, c'est pas pour rien, on risque de tomber dans un tas de pièges. L'un des pièges, déjà, c'est de vous sentir dépassé peut-être par votre mission, vous dire, ah là là, j'ai un destin grandiose, et donc d'aller quelque part de vous faire récupérer complètement par votre ego. Je connais malheureusement certains médiums ou channels qui ont qui croient s'être débarrassés totalement de l'ego, mais qui sont dans des logiques de mission de sauvetage de l'univers ou de l'humanité, et qui peuvent donc avoir des attitudes extrêmement dogmatiques et des comportements destructeurs envers eux-mêmes et envers les personnes qui viennent les voir. On verra pourquoi, à quel point l'ego peut poser un problème dans ce genre de situation. Donc déjà, Premier risque, vous sentir dépassé par votre mission, donc là qui peut vous donner un sentiment d'écrasement, de là c'est tellement gros, je ne sais pas ce que je peux faire, ou alors au contraire un sentiment de grandiosité en disant ben voilà, je suis un élu, je suis quelqu'un de spécial. Donc il est important de rester bien aux prises avec la réalité là-dedans, avec finalement beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Le deuxième point, ce serait la confusion que peuvent apporter certaines expériences extraordinaires. Quand vous voyez des esprits de personnes disparues, quand vous rencontrez des entités, quand vous avez la confirmation de certaines de vos capacités spirituelles, ou du sixième sens, eh bien vous pouvez avoir votre monde qui s'écroule si votre système de croyance était basé sur d'autres choses. Donc vous pouvez vous sentir totalement confus et ça peut vous perturber, vous empêcher de fonctionner à la fois dans le monde matériel et aussi sur le plan spirituel. Il y a aussi un poids de la confrontation au monde réel, c'est-à-dire que il peut être extrêmement compliqué de fonctionner en développant sa connexion au spirituel et en même temps en gardant un pied dans le matériel. Arriver à faire fonctionner les deux à la fois, c'est un travail d'équilibriste. Et donc, se confronter au monde matériel, arriver à fonctionner dans ce monde matériel sans renier, on va dire, les capacités spirituelles, le côté spirituel, c'est quelque chose de compliqué. Il y a aussi tout le côté des réactions du côté obscur, je vous en parlais tout à l'heure, le fait de dire qu'on va commencer à diffuser de la lumière, ça fait une action, et de l'autre côté, il y a une réaction. Donc on peut se retrouver face à des difficultés, face à des difficultés techniques, des emmerdements de toutes sortes. Et ça, c'est parce que le côté obscur, d'une certaine façon, nous met des obstacles. D'une autre façon, c'est aussi un moyen de tester notre détermination, d'apprendre des choses et de transcender tout ça. Mais il faut faire attention à ne pas se laisser, on va dire, impressionner ou pas de pas renoncer à cause de ces difficultés. Parce que tout ça peut créer au final l'envie d'abandonner et de se dire, ben non, finalement, je laisse tomber. Alors que finalement, c'est le seul chemin qui peut nous donner une forme de satisfaction, une sorte d'épanouissement, une forme d'accomplissement. Évidemment, il y en a plein d'autres. Mais donc il est important de reconnaître qui vous êtes, de reconnaître vos talents, vos dons, de les employer et surtout de les maîtriser, de développer votre maîtrise de tout ça et d'avancer avec confiance sur ce chemin. Mais je vais vous en dire un peu plus maintenant. Donc tout ça, pour moi, vos dons et talents, ce sont des armes. Donc vous êtes un guerrier de lumière, vous avez une arme de lumière, un peu comme le sabre du chevalier Jedi. C'est une vie qui n'est pas simple. Mais quelque part, c'est la vie que vous avez choisie. C'est vrai que c'est peut-être plus simple d'être dans la lumière, en train de jouer de l'harpe. En même temps, c'est ici, maintenant, que les choses se passent. Et c'est pour ça que vous avez décidé de revenir. De toute façon, c'est une vie qui n'est pas simple, mais ça fait partie du contrat, de ce que vous avez accepté, de ce que vous avez souhaité, de ce que vous avez désiré. Ça fait partie, comme je le disais, de votre don à l'humanité. C'est un signe d'une grande évolution spirituelle. Et je pense que pour vous, je pense que vous le savez, c'est la seule vie qui vaille la peine d'être vécue, la seule chose qui peut vous donner véritablement du sens, d'accepter et d'accomplir cette mission. C'est pour ça que vous êtes venu ici. C'est ça qui fera que vous n'aurez pas perdu votre temps, entre guillemets, en venant sur cette terre. Vos dons, c'est vraiment vos armes de lumière, et pour les utiliser, vous devez vous entraîner, vous devez les connaître, vous devez pratiquer, vous devez vous entraîner. Donc déjà, vous reconnaître. Vous connaître et vous reconnaître en tant que personne ayant un rôle spirituel à jouer, ça vous aidera à donner un sens à tout ça. Identifier, maîtriser vos talents, ça aussi lié au fait de vous souvenir, d'accéder à cette base de connaissances que vous possédez. Vous protéger, parce que voilà, plus vous maîtrisez ces armes et plus vous êtes visible d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue fréquentiel, et plus vous allez attirer à vous des éléments obscurs, un peu comme la lumière peut attirer des papillons, donc il est important de vous protéger. Vous purifier, ça c'est important pour être toujours dans une intention pure, dans une intention juste, et surtout n'oubliez pas, parce que tout ça ce sont des dons, donc il vous appartient de les maîtriser pour votre bien-être, pour votre bien, pour votre plénitude, et aussi pour celui de l'humanité. Donc pensez à vous comme un chevalier Jedi, vous avez votre sabre laser, et effectivement, vous pouvez, si vous ne maîtrisez pas bien, vous pouvez vous blesser ou blesser les autres, et en même temps, c'est en accomplissant votre destinée de Jedi, quelque part, que vous allez trouver l'accomplissement et la plénitude que vous recherchez. Alors je voudrais vous parler maintenant des sept dons principaux des messagers de lumière. Le premier, c'est la sensibilité, la capacité à ressentir les choses. Le deuxième, c'est la connexion, la capacité à être connecté à là-haut, entre guillemets. Je vous expliquerai exactement ce que ça veut dire. Le troisième, je dirais que c'est la sagesse, c'est-à-dire c'est la capacité à faire ce qui est juste, à trouver l'action juste. Ensuite, je dirais c'est l'empathie ou la compassion, la capacité à ressentir comment les autres se sentent et à les aider. Ensuite, je dirais l'intuition, capacité à ressentir des choses ou à comprendre des choses au-delà de nos pures facultés cognitives. La confiance, l'espoir, la foi, alors il y a différents mots pour ça, mais c'est une croyance fondamentale dans la lumière et dans le fait qu'il existe autre chose, indépendamment de tout ce qu'on peut nous nourrir, ce avec quoi on peut nous nourrir culturellement et qui peut nous bloquer parfois. Et enfin, je dirais la transcendance de la mort. Alors, c'est un grand mot, la transcendance de la mort, mais ça veut dire que nous sommes capables de jeter un coup d'œil, de passer une tête par-delà la porte de la mort et de voir ce qui se passe de l'autre côté. D'avoir une confiance aussi, une conscience et une confiance de ce qui se passe de l'autre côté. Alors, on va prendre ces sept dons un par un. Bon, pour commencer, la sensibilité. Alors, je trouvais que ce petit hérisson était très mignon et il m'évoquait bien ce côté de fragilité, ce côté de besoin de protection, ce côté sensible. Et c'est vrai que les messagers de lumière sont souvent hypersensibles, hyper émotifs. Ça veut dire qu'il y a ces réactions fortes à des stimuli physiques, la lumière, la température, le bruit, les odeurs, certains matériaux, des excitants, des médicaments. Je connais des gens qui ne peuvent pas porter un pull en laine, par exemple, ou pas porter certains cols hauts parce qu'ils ont l'impression que ça les étrangle, qui sont très mal à l'aise dès qu'il y a trop de lumière ou trop de bruit, qui sont mal à l'aise dans des foules. Certaines personnes qui peuvent pas prendre, c'est mon cas, qui peuvent pas prendre de café parce que sinon ils ne peuvent pas dormir pendant 2 jours. Donc ça, c'est des réactions fortes à des stimuli physiques, mais aussi à des stimuli émotionnels. La notion de critique, de défi, de pression, alors ça galvanise certaines personnes et ça peut être extrêmement positif et motivant, mais pour des personnes hypersensibles, ça peut devenir d'un seul coup beaucoup trop à gérer et ça peut annihiler totalement toutes les compétences extraordinaires de ces personnes, ce qui peut amener malheureusement d'ailleurs certaines personnes très douées à quitter certains domaines, à abandonner certains projets, que ce soit des études, que ce soit un travail, parce qu'il y a ce sentiment d'être totalement débordé ou totalement dépassé. Et puis il y a aussi, au-delà du physique et de l'émotionnel, il y a aussi toutes les stimulations énergétiques des personnes, des lieux, des événements. Parfois on se retrouve dans un endroit et on dit, ah ben non, non, cet endroit je le sens pas du tout, je peux pas y rester, j'ai l'impression d'être dans un cercueil ou j'ai l'impression d'étouffer. Ou alors des personnes, on ne sait pas pourquoi, mais que ce soit en discutant avec elles, ou que ce soit par des échanges, par mail ou autre, on se dit, ah non, non, cette personne me crispe, il y a quelque chose, je peux pas, je peux pas. Donc il y a cette sensibilité énorme. Et tout ça amène à du stress physique, émotionnel, énergétique, de la peur, des malaises, des douleurs physiques, de l'angoisse, dépression, tout ce genre de choses. Alors, comment est-ce qu'on développe son don? Et bien évidemment, ça dépend de quel don exactement vous avez, parce que vous êtes peut-être très sensible, mais suivant le sens auquel votre sensibilité est rattachée, eh bien ça va correspondre à différentes catégories. Donc par exemple, si vous avez une sensibilité sur la vue exacerbée, par exemple la lumière vous rend facilement mal à l'aise, eh bien tout ce qui est la lecture des auras, mais aussi le tarot, la vision à distance, la sortie hors du corps, tout ce qui peut être aussi la canalisation en termes de voir des choses ou des images, tout ce qui peut être lié aussi à des choses comme la luminothérapie, tous les soins à base d'images de lumière. Si vous êtes sensible au niveau de l'ouïe, tout ce qui concerne votre audition, eh bien là encore, on retombe dans des domaines comme la canalisation, entendre des messages, mais aussi tout ce qui est les soins avec des sons, des vibrations, tout ce qui est la transcommunication instrumentale, le fait de pouvoir être en communication avec d'autres plans. Si vous êtes plus sur le toucher, eh bien vous avez tout ce qui est les soins énergétiques, la psychométrie, le travail avec les cristaux, l'odorat, on est plus dans l'aromathérapie, les bougies, les huiles essentielles. Le goût, on va être dans les remèdes naturels, la naturothérapie, les fleurs de Bac. Alors évidemment, ce ne sont que quelques exemples, mais suivant votre sensibilité, vous comprendrez peut-être le lien qui existe entre la sensibilité que vous avez et les domaines qui vous intéressent ou ceux dans lesquels vous pourriez vous développer. Il est important aussi, face à cette sensibilité, de vous protéger, d'avoir autour de vous la défense nécessaire, la protection nécessaire. Donc soyez conscient de votre sensibilité, mais aussi de celle de vos proches, parce que si vous avez certains dons, certains talents, il est tout à fait possible que des personnes de votre famille, peut-être des parents, peut-être vos enfants, peut-être même des amis, parce que, il y a quand même un effet vibratoire, on attire des gens qui nous ressemblent. Donc soyez conscient de cette sensibilité-là. Et surtout observez, parce que peut-être que des choses que vous trouviez être des défauts chez vous, que vous retrouvez chez vos enfants et que vous voulez absolument corriger, liées à des sensibilités extrêmes, eh bien, peuvent être le signe de dons que vous avez refusés, vous n'avez pas voulu regarder en face, ou vous n'avez pas su quoi faire. Par contre, peut-être que vos enfants, eux, peuvent en faire quelque chose. Donc, il est important d'être bien conscient des phénomènes qui se jouent pour nous et pour nos proches. Et donc il est important que vous preniez soin de vous comme si vous étiez un instrument précieux, un Stradivarius, un piano, parce que c'est vraiment ça. De même qu'un sportif prend soin de son corps, eh bien vous avez un don précieux, il est important de vous protéger, de prendre soin de ça. Donc aussi bien sur le plan physique, l'alimentation, mais le rangement de votre environnement, faire de l'exercice, avoir un rythme de vie respectueux de vous-même. Sur le plan émotionnel, donc éviter les situations stressantes, la violence, la négativité. Sur le plan énergétique, certaines personnes peuvent être de vrais vampires énergétiques et vous polluez, vous bouffez votre énergie. Surtout faites attention à ne pas confondre l'énergie des autres avec la vôtre, parce que si quelqu'un de négatif arrive, ou quelqu'un de déprimé, ou quelqu'un de malheureux, ben vous allez sentir d'un seul coup ce poids sur votre énergie. Mais aussi d'un point de vue plus de la conscience globale, des événements qui peuvent se passer, de l'inquiétude, des catastrophes naturelles, des crises et autres. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous. Il est important que vous ayez un lieu, que ce soit un lieu physique ou psychique, peu importe, mais qui vous aide à vous retirer et à recharger vos batteries. Et ça peut être vous mettre dans une bulle de lumière, dans une pyramide de lumière, vous reconnecter à la nature, au beau, avoir un peu votre petite pièce, même si c'est juste un bout de placard que vous avez récupéré avec un pouf et dans lequel vous lisez avec un peu de musique. Il est important que vous ayez ce lieu à vous pour vous ressourcer, pour prendre vraiment soin de vous. Et ce besoin de retraite, c'est pas un défaut, c'est pas le fait que vous n'êtes pas capable de fonctionner dans le monde, ou que vous êtes lâche, ou que vous êtes quelqu'un de paresseux, ou un rêveur, ou je ne sais quoi. Eh bien, c'est le signe de votre valeur. De même, pour qu'une machine fonctionne, elle a besoin d'être maintenue. Et donc, vous avez besoin d'avoir cette maintenance et ce soin, cette protection vis-à-vis de vous-même et de votre don sur les plans physiques, émotionnels et énergétiques. Alors, le don numéro 2, c'est la connexion au plan supérieur. En fait, la plupart des gens, vous le savez, vivent endormis, en pilotage totalement automatique, mais vous êtes éveillé, conscient. Peut-être pas autant que ce que vous voudriez, mais vous l'êtes en tout cas plus que les autres. Et vos guides vous envoient en permanence des messages du monde spirituel. C'est le cas de tout le monde, mais vous particulièrement, parce que vous avez un rôle particulier à jouer, donc vous avez un accompagnement spécifique, un peu un programme, si vous voulez, un programme de développement spécifique, un peu comme un coach pourrait former un sportif. Et donc vous avez ces messages qui vous arrivent, et vous êtes en même temps, a priori, plus connecté, des vibrations plus élevées, et donc vous êtes capable de recevoir ces messages. Alors parfois vous en êtes coupé, bien sûr, et là vous dites, ben voilà, que votre vie n'a plus de sens, vous sentez vide, un peu comme un bateau à la dérive qui aurait perdu sa boussole. Mais plus vous augmentez votre taux vibratoire, et bien plus ces messages deviennent clairs. Et c'est un peu comme un cercle vertueux, vous accumulez de la lumière, de la vibration, votre intuition s'améliore, vous recevez mieux ces messages, et donc vous prenez de meilleures décisions, et vous avancez comme ça vers la lumière, évidemment. Comme tout le monde, vous trébuchez, l'ego ou les influences extérieures vous font trébucher, vous tombez, vous vous relevez, mais vous avez cet accompagnement, et plus vous avancez, et plus cet accompagnement va devenir clair et limpide. Et le principe, c'est que quand la mer de l'endormissement se retire, eh bien, vous voyez tout ce qu'elle cachait. C'est un peu comme si vous étiez sur la plage, et là vous voyez cette mer qui se retire, cette conscience globale, et là vous voyez le sable, vous voyez les cailloux, vous voyez les petits animaux, vous voyez des messages écrits. Et c'est de ça dont il se passe, c'est cet éveil qui permet de faire cette façon, vous montez plus haut, vous passez à un niveau supérieur, et donc ce qui était caché devient visible. Sur la connexion, il est important de travailler avec vos guides, parce que comme tout le monde, vous avez des guides, j'en parlais tout à l'heure, ce sont quelque part des messagers de lumière, un peu comme vous, qui viennent des plans supérieurs, sont des intermédiaires, ils sont à un niveau de fréquence qui est plus élevé que nous, enfin que notre incarnation matérielle en tout cas, et moins élevé par exemple que la fréquence de la source, donc ils sont quelque part entre les deux, ils font ce rôle de passage. Et ils vous accompagnent, vous n'êtes jamais seul. Même quand vous sentez désespéré, même quand vous sentez mal à l'aise, vous n'êtes pas seul. Et alors, vous allez me dire, oui, mais où est-ce qu'ils sont? Il y a 2 mois, j'étais au fond du trou, j'étais déprimé, j'avais envie de rien, et j'étais seul, personne n'est venu me voir. Non, c'est pas parce que vous êtes enfermé dans votre bulle, que ce soit vous qui vous soyez mise ou que quelqu'un d'autre vous y enfermez, mais c'est pas parce que vous êtes seul dans votre bulle qu'il n'y a pas des gens à l'extérieur qui vous aiment et qui ont envie de vous aider. Vous n'êtes peut-être pas capable de les voir parce que votre bulle est une bulle qui est noire, obscure et que rien ne filtre à l'intérieur. Mais n'empêche qu'ils sont là et qu'ils sont prêts à vous tendre la main. En attendant, ils vous attendent dès que vous mettez la tête à l'extérieur. Donc ils vous accompagnent, vous n'êtes jamais seul. Surtout, ils vous apportent un support dans votre créativité, dans votre développement spirituel, dans votre travail, dans votre santé. Ils sont là, ils vous tiennent par la main, ils vous donnent des conseils, des recommandations. Alors bien évidemment, chaque guide a son expertise, son expérience de vie aussi, parce que le fait d'avoir vécu des choses, d'avoir accumulé une expérience spécifique, eh bien ça nous rend beaucoup plus pertinents pour accompagner quelqu'un qui vit la même chose. Ça nous permet d'avoir un certain recul sur ce qu'il vit, savoir par quoi il est passé, par quoi il va passer aussi, et donc ça nous permet de mieux l'accompagner. Donc c'est pareil sur ce plan des guides, donc chacun a sa connaissance, chacun a son expertise, chacun a son expérience. Et donc ça veut dire que vous pouvez avoir différents guides à différents moments de votre vie. Ça dépend de quoi vous avez besoin. Si vous vous débattez à un moment de votre vie avec des questions de relations, vous n'aurez peut-être pas forcément le même guide qu'au moment où vous déciderez d'aller vers votre développement spirituel et de travailler par exemple les soins énergétiques. Vous n'aurez pas forcément le même guide qui vous accompagnera. Alors bien évidemment, les guides peuvent avoir différentes formes. Quand on les voit, alors tout le monde ne les voit pas, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend des sens qui sont les plus développés chez vous, mais ce sont généralement des formes familières, des gens que vous connaissez, ce à quoi votre religion vous a préparé. Et alors, ça ne veut pas dire que si vous rencontrez quelqu'un qui vous a l'impression que c'est Jésus, ça ne veut pas forcément dire que c'est Jésus, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas Jésus, mais dans tous les cas, ça appartient à cette même forme d'énergie, par exemple. En tout cas, il y a cette capacité de changer de forme, de changer d'image, et ça peut aussi être lié à, et ça on en parlera, mais à certains symboles pour vous évoquer certaines choses. Un guide qui incarnera pour vous la sagesse aura plutôt tendance à prendre l'aspect d'une figure paternelle pour vous, peut-être un père ou un grand-père, ou on va dire un sage à barbe blanche, parce que psychologiquement c'est connoté de cet élément de sagesse. Donc les formes peuvent varier, et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attacher à cette notion de forme, mais à quels sont les messages derrière. L'autre point, c'est que ce ne sont pas des super êtres. Ce sont des êtres en évolution. Comme vous, ils sont peut-être simplement juste plus avancés sur le chemin, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, ça ne veut pas dire qu'ils ont l'omniscience. Ils sont peut-être un peu plus haut, donc ils voient un peu mieux le chemin. Ils voient un peu mieux les embranchements, ils voient un peu mieux ce qui se passe, mais ils n'ont pas non plus la vision complète. Donc ils peuvent vous donner des éclairages, ils peuvent vous assister par rapport à ce que vous vivez. Ils peuvent aussi avoir des informations d'autres êtres plus évolués. Donc c'est un peu comme une espèce de, un peu, je sais pas, c'est un conseil de classe ou pas dans l'idée de la sanction, mais dans l'idée de l'accompagnement. C'est un coaching permanent qui se met en place. Alors évidemment, c'est pas simple parce que vous avez votre libre arbitre. Donc si vous voulez aller dans le mur, ben vous allez dans le mur. Et même des médiums extrêmement doués sont sans arrêt en train de se dire, mais bon sang, comment est-ce que je peux être aussi aveugle? Je tombe à chaque fois dans la même erreur. Ils me disent des choses, je crois les comprendre et je ne les comprends pas. Et je vais en faire qu'à ma tête. Et au final, je me prends le platane, je me prends le mur. Et ils rigolent, là où ils rigolent en me disant, ben tu vois, t'as eu ce que t'as récolté. Et moi, je me dis, bah, j'aurais dû les écouter, et ça recommence la prochaine fois. Donc, Donc il y a ce côté d'accompagnement où il vous donne des informations, il vous donne de l'aide, des conseils qui vous arrivent sur le plan inconscient. Et souvent, on peut les entendre, on les comprend peut-être pas toujours, ou ça nous passe à côté. Mais en attendant, il n'y a jamais de jugement, il y a toujours cette espèce d'accompagnement bienveillant et un grand respect pour notre libre arbitre, notre liberté de vivre notre expérience. Parce que leur objectif, c'est vraiment de vous aider à vivre votre expérience de vie, celle qui vous correspond, pas celle d'un autre, pas celle qui paraît plus sexy, mieux matériellement, plus accomplie spirituellement, etc. Non, c'est votre expérience, la raison pour laquelle vous êtes venu. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il y a un alignement entre le fait de vivre votre expérience de vie et de contribuer à l'évolution de la conscience de la Terre ici et maintenant. Parce que c'est quelque part la raison pour laquelle vous avez choisi cette incarnation de vivre cette vie-là. Alors, il est important de reconnaître la voix de vos guides, parce que souvent on se dit oui, j'entends des choses, j'ai des petits messages, des instincts, mais est-ce que ce sont vraiment mes guides? Alors, c'est pas forcément facile. De toute façon, Paulo Coelho explique bien que il est très difficile de reconnaître la voix de la lumière et la voix de l'obscur, surtout quand on est dans des moments de doute, parce que finalement chaque voix dit un peu la même chose. Par contre, il y a une, comme vous le savez, ce qui compte, c'est l'intention. Donc l'intention derrière est totalement différente, et c'est là que se fait la vraie différence. C'est que la voix de l'ego, elle est basée sur la peur. La peur, le doute, l'interrogation, le dénigrement de soi, ce genre de choses. Alors que la voix de nos guides, eh bien, c'est de l'amour, c'est du support, c'est de la prudence, de la sagesse, c'est des directions, c'est de l'harmonie. Donc c'est une énergie qui est totalement différente. Et la voix de vos guides, elle vous élève, elle vous nourrit, elle vous encourage, elle vous comprend quelque part. Elle n'est pas dans le jugement, elle n'est pas dans dire ah oui, mais regarde, t'as fait telle erreur, t'as fait tel truc, t'es vraiment bon à rien, t'es nul, comment est-ce que tu. On va jamais s'en sortir avec toi. C'est au contraire une grande compassion et un grand amour, parce que ce sont des êtres qui sont proches de l'amour inconditionnel de la source, en tout cas qui le travaillent. Et c'est leur propre, quelque part dans leur propre programme de développement, il y a le fait de travailler cet amour inconditionnel, ce support, ce soutien, cette compréhension, ce non-jugement. Donc la voix de vos guides, elle vous élève, elle vous nourrit, vous encourage. Et vos guides ne sont jamais négatifs avec vous. Ils tenteront pas de vous manipuler par la peur, l'envie et autres. Ils n'utilisent pas des techniques comme ça d'essayer de vous faire miroiter des choses extraordinaires ou de vous menacer des pires tourments si vous ne faites pas ça. Moi, je sais que j'étais en contact avec certaines entités spirituelles et qui commençaient à rentrer dans des délires totalement égotiques et où, en gros, j'ai su que ce n'était pas la voie véritable de mes guides parce que c'était basé sur des tentatives de manipulation à la fois par l'ego de réalisation extraordinaire et en même temps par la peur, à la fois des peurs de châtiment et des peurs de voilà, si je ne faisais pas ce qu'elle me disait, eh bien ce serait le désastre sur le plan de la conscience globale. Donc les guides ne réagissent pas du tout comme ça, ne fonctionnent pas du tout comme ça. Il y a des gens aussi qui, en faisant du spiritisme, ont été en contact avec des entités qui disaient s'appeler Jésus, Bouddha ou autre, et qui commençaient à construire la confiance, et qui après commençaient à les manipuler par de la peur, par des choses comme ça, leur demandaient de faire des choses. Donc là-dessus, très sincèrement, hein, vos guides ne seront jamais négatifs, et surtout ne vous manipuleront pas. Ils ne demanderont pas que vous fassiez des choses si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Ils vous diront jamais de faire du mal à qui que ce soit et encore moins à vous-même. Et surtout, ils ne vous feront jamais de mal à vous. Ils ne seront jamais dans une logique d'appuyer là où ça fait mal, de vous dénigrer, de vous faire vous sentir petit, faible, pas de ne pas mériter quelque part l'amour inconditionnel de la source. Non, c'est pas du tout ça. Et malheureusement, il y a un certain nombre de gourous ou d'enseignants spirituels qui travaillent cette notion du dénigrement, qui travaillent sur les faiblesses des uns et des autres, de manière à pouvoir mieux les contrôler, à pouvoir mieux les dominer. Et c'est comme ça qu'ils leur font abandonner leurs possessions, vivre dans des communautés Et en fait, ça, malheureusement, ces techniques de manipulation existent, mais ce ne sont jamais, jamais la voix de vos guides. L'autre point, c'est que ils ne voudront jamais de croire ou de faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Alors, ils peuvent vous inviter à expérimenter de nouvelles choses, ils peuvent vous faire des suggestions, mais par contre, ils ne vous manipuleront pas pour le faire. Ils peuvent vous inviter à aller ouvrir telle ou telle porte, mais ils vous diront jamais, ben voilà, si tu n'ouvres pas cette porte, ça va être la catastrophe dans ta vie, tu auras péché aux yeux de la source ou de Dieu ou de je ne sais quoi. Donc il y a vraiment ce respect, cet amour, cet humour aussi, je dirais, parce que quelque part, quand on voit le chemin d'un peu plus haut, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on accorde de l'importance qui finalement sont secondaires, qui sont un peu vaines. On se fait un peu peur d'une certaine façon, mais ce qui compte vraiment est au-delà. Donc il y a une forme de sagesse, de relativisation, voilà, de confiance, de lumière, amour, voilà. Un point qui est important de réaliser, c'est que vos guides sont là. Vous n'êtes pas seul. Ils sont là avec vous. Et c'est là qu'il est important de croire, parce que croire, c'est voir. Vous augmentez votre niveau de conscience, vous ouvrez votre esprit aux possibilités de ce que vous ne pouvez pas voir. Alors, c'est surprenant parce que souvent on dit que il faut voir pour croire. Et ça, c'est notre cerveau un peu rationnel, notre cerveau d'occidental. Sauf que ça fonctionne dans l'autre sens. Et ça fonctionne dans l'autre sens d'ailleurs même au niveau de la science, par exemple. Parce que si vous regardez par exemple Pasteur. Pasteur a avancé l'hypothèse des microbes. Mais il avait besoin de croire en l'existence des microbes de manière à pouvoir développer la technologie, donc le microscope, qui permettait d'observer ces microbes. Et il a été tourné en ridicule, etc., etc. Mais c'est uniquement parce que lui a cru qu'il a pu voir. Et comme lui a pu voir, il a pu transmettre ce qu'il avait vu aux autres. Et c'est là que les autres, eux-mêmes, ayant vu, ont pu croire. Mais ça commence toujours comme ça. Il faut toujours quelqu'un qui croit d'abord pour voir, pour explorer. Et c'est quand lui a pu voir qu'il ramène en fait la connaissance auprès des autres. Donc quand vous croyez, eh bien vous augmentez votre niveau de conscience et vous accédez à de nouvelles réalités. Il est important que vous soyez conscient que vous faites partie d'un plan divin. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes ici dans une incarnation où vous accomplissez votre partie de ce plan divin. Et donc ayez confiance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, vous êtes accompagné. C'est pas comme si vous partiez au combat avec votre petit paquetage et contre une armée de 200 000 ennemis tout seul. Non, c'est une magnifique horloge. Alors horloge, ça fait mécanique, mais c'est un magnifique écosystème, c'est une magnifique biosphère où chacun joue son rôle. Et de même que dans la nature, vous allez avoir, voilà, chaque animal va être soutenu par son environnement. Eh bien là, c'est pareil. Vous êtes dans un écosystème et vous êtes accompagné, vous êtes aidé, vous êtes aimé. Vous faites partie de cette famille. Et ça, moi, je me souviens toujours d'une expérience extraordinaire. J'écoutais une musique et là, j'ai senti, j'ai entendu ce message où j'ai ressenti, c'était quelque chose comme frère, bienvenue. Frère, sois le bienvenu. Et ce message, pour moi, était fondamental parce qu'il y avait ce côté de fraternité, de connexion, d'être ensemble, d'appartenir à une communauté, à une fraternité qui dépasse la communauté du monde physique, du monde matériel, mais qui s'étend au-delà dans les plans supérieurs. Donc, ayez confiance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous êtes aimé, tel que vous êtes. Et n'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, de plus en plus de guides puissants viennent apporter leur aide. Tout simplement, action-réaction, parce que le côté obscur devient de plus en plus lourd, et donc il faut quelque chose d'autre dans la balance. On va dire, il faut alléger ce côté obscur, de manière à ce que l'harmonie et l'équilibre reviennent. Donc, vous n'êtes pas seul, vous appartenez à une communauté, à une fraternité d'une puissance extraordinaire, voilà, unis par beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, cette même conscience, cette même préoccupation pour l'évolution de la Terre. Et je trouve que c'est une belle famille de laquelle faire partie. Donc vous êtes en bonne compagnie et surtout vous êtes une noble partie de cette famille. C'est pas un petit canard, tout le monde se moque, ou qui n'est pas assez haut niveau, pas assez ceci, pas assez cela. Non, vous faites partie à part entière de cette famille. Et d'ailleurs, c'est un travail d'équipe. Ça ne peut pas se faire tout seul, mais de même, ils ne peuvent pas vous aider malgré vous. C'est pour ça qu'il est important que vous demandiez de l'aide. Il faut reconnaître ses limites, reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire. Alors dans la vie, il y a un moment de dépendance. On est aux dépens de ses parents et autres. Il y a un moment d'indépendance où en fait on a envie de dépendre de personne, on veut mener sa vie, on veut être voilà le grand garçon ou la grande fille ou l'adulte responsable. Et puis à un moment on se dit voilà, mais finalement tout seul, je ne peux faire qu'une partie du chemin. Et là on rentre dans l'interdépendance. Et c'est vraiment ça le principe, c'est cette interdépendance, de même que les différentes parties d'un écosystème sont à la fois indépendantes, elles existent par elles-mêmes, elles sont capables de se nourrir par elles-mêmes, mais elles le font au sein d'un réseau d'interdépendance. Et donc c'est ça dont vous faites partie d'un réseau d'interdépendance. Et donc demandez de l'aide, il n'y a pas de honte à demander de l'aide quand ça va pas, quand alors vous pouvez demander de l'aide à Jésus, à Dieu, à l'univers, à vos guides, à votre animal totem, à qui vous voulez, parce que tout ça c'est de la sémantique. Au final, tout ça part et revient à la source, donc vous demandez à la source cette aide et elle vous la donne parce que vous êtes accompagné. Évidemment, elle ne vous privera jamais de vos expériences de développement. Et parfois, il y a des choses difficiles à passer. Parfois, il faut monter au sommet de la montagne et on transpire et on a mal partout, mais et c'est ça qui donne du prix à ce paysage extraordinaire qu'on découvre quand on est là-haut. Donc, demandez de l'aide, travaillez en équipe avec eux, avec les guides qui vous accompagnent. Développez cette confiance. Évidemment, personne, et certainement pas moi, vous demande de croire la petite voix qui vous dit d'aller vous jeter par la fenêtre ou de faire je ne sais quelle bêtise. Mais par contre, apprenez à décoder les choses. Apprenez à reconnaître le filtre de votre ego, à l'enlever. Apprenez à faire confiance à ces êtres de lumière, d'amour, à cette communauté, à cette fraternité qui vous entoure. Et donc même dans l'obscurité, vous êtes dans la lumière, et même seul, vous êtes accompagné. Et même quand vous avez l'impression que le monde vous en veut, quand le monde vous déteste, quand vous-même vous détestez, eh bien sachez que vous êtes aimé, et vous êtes aimé de façon inconditionnelle. Alors pour accéder à vos guides, à ces messages, vous avez trois moyens qui sont les signes, la méditation et les rêves. Alors pour recevoir et comprendre les messages, vous avez évidemment tout ce qui est au niveau du quotidien, les signes. Alors ils sont souvent subtils, ça peut être une chanson que vous écoutez à la radio, ça peut être une phrase que quelqu'un anodine que quelqu'un vous dit, mais qui prend d'un seul coup une consonance particulière, vous ne savez pas pourquoi. Ça peut être un vieux livre que vous retrouvez et que vous ouvrez, et tac, ça tombe bizarrement sur quelque chose qui vous parle. Donc évidemment, vous pouvez à chaque fois ne pas leur accorder d'attention, mais il est intéressant de regarder avec leur répétition ce que ça donne. Soyez vigilants, soyez à l'affût des signes. Quand vous avez cette petite intuition qu'il y a quelque chose de spécial, quelque chose qui dépasse la pure répétition du quotidien, eh ben, allez regarder, allez creuser, ça vaut la peine. Quand vous méditez aussi, alors quelle que soit votre pratique de méditation, ça peut être la prière, ça peut être la méditation vipassana, ça peut être aussi certains travaux que vous pouvez faire, le jardinage ou autre, qui sont des formes de méditation, eh bien là vous pourrez peut-être rencontrer votre guide, vous pourrez ou vos guides, vous pourrez avoir une intuition. Vous pouvez aussi faire des voyages aux portes des rêves, où là, c'est des exemples de choses que je fais, mais où vous pouvez être guidé avec de la musique, avec des mots choisis, dans certaines expériences. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas l'endroit où vous êtes guidé, mais c'est ce que vous faites une fois que vous êtes dans cet endroit. Donc c'est créer des conditions pour que quelque chose se passe et que vous receviez un message. Et effectivement, parfois, vous allez avoir une phrase, une image, un message, quelque chose qui devra être digéré, peut-être, interprété. Parce que souvent, ces signes, comme les rêves, sont des choses qui sont sursignifiantes. Alors, les rêves, ce qui se passe, c'est que pendant le sommeil, votre corps astral quitte votre corps et vous vivez des expériences. Alors, parfois, certains rêves sont simplement des éléments de cerveau organique, mais parfois, eh bien, il s'agit de véritables, voilà, de la réminiscence de véritables expériences que vous vivez en dehors de votre corps. Et là, vous allez recevoir des enseignements, recevoir des soins, peut-être en donner d'ailleurs. Donc ça, ce sont des choses que vous faites, mais dans lesquelles vous pouvez recevoir des messages de vos guides. Alors, il est très important de savoir que ces messages sont souvent surdéterminés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de signification. Et quand vous commencez à interpréter une image ou un symbole, eh ben, vous avez peut-être l'impression d'avoir compris la première fois, vous la prenez au sens littéral, et puis plus vous creusez, et plus vous allez découvrir des sens. Et surtout, ce qui est important, c'est que souvent, un signe tout seul ne veut pas dire grand-chose, où on a plein de pistes, mais c'est quand on met plusieurs signes les uns à côté des autres que là, on peut raconter une histoire et comprendre le message. Et là où il y a une arme secrète, qui est votre carnet spirituel. Il est très important, il est essentiel que vous ayez un carnet spirituel, un endroit où vous allez noter tous ces éléments, toutes ces expériences, tous ces signes qui vous arrivent, avec vos hypothèses, vos interprétations, et parce que quand vous le reprenez, eh bien, vous allez découvrir de nouvelles choses. Et moi, mon propre carnet, là, en fait, avant, je travaillais avec un carnet papier, donc qui était un carnet de rêve dans lequel je notais parfois certaines choses. Sauf que mon carnet de rêve était à côté de ma table de nuit. Parfois, j'oubliais. C'est difficile quand vous avez quelque chose qui vous arrive de sortir votre carnet de votre sac. Vous l'avez pas toujours avec vous et autres. Donc, je suis passé à un carnet électronique. Donc, j'ai un petit voilà sur mon téléphone. J'ai une petite application où je note en fait. Alors, ça pourrait être un simple carnet, un simple bloc-notes, sauf que moi j'ai pris une application qui permet aussi l'interprétation des rêves parce que ça reconnaît les mots et ça permet ça permet d'avoir la symbolique du mot. J'ai aussi un dictionnaire de rêves à côté, donc quand il y a des thématiques qui reviennent ou des choses qui me paraissent bizarres, et eh bien je vais creuser le mot pour aller chercher plus loin le sens du rêve ou de la vision ou du message. Donc je note aussi bien mes rêves que les synchronicités bizarres qui m'arrivent dans la vie, que les messages que je reçois, et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Alors pour information, je note tout ça en anglais, à la fois parce que l'application est en anglais, mais aussi parce que pour une raison que j'ignore, ça a toujours été un peu mon langage dans la spiritualité. Ça a toujours été voilà, le langage avec lequel je me sens peut-être plus à l'aise avec ce genre de concept, ce genre de réalité. Donc je note dans ce langage-là et en fait je me rends compte que. Alors parfois il y a des images qui ne sont pas toujours. Je me demande si l'image doit être interprétée en français ou en anglais, parce que les expressions peuvent avoir des sens différents. Mais en même temps, ça me permet, je pense, de court-circuiter une partie de mon cerveau rationnel et peut-être ça me permet de noter tout ça de façon peut-être plus libre ou plus spontanée. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Voilà. Parlons maintenant du don numéro 3. Alors, le don numéro 3, c'est la sagesse. Alors, la sagesse, pour moi, ça fait partie des deux forces principales de la vie. Vous avez une première force qui est le pouvoir, c'est la capacité à réaliser des choses. Donc, c'est la création, l'un des attributs de Dieu ou de l'univers, ou l'un des attributs que nous avons, et vous avez la sagesse, c'est-à-dire la capacité à être, la capacité à faire des choses qui ont du sens. Donc vous avez le pouvoir, capacité à réaliser ce que vous voulez, et la sagesse, la capacité à vouloir ce dont vous avez véritablement besoin. Besoin étant, à partir du moment où vous êtes quelqu'un de spirituel, entre guillemets, que vous êtes messager de lumière, votre besoin est aligné avec le besoin de développement de l'univers. Alors, il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence, c'est-à-dire que la façon dont je le traduirais, c'est que l'intelligence vous permet de résoudre des problèmes. Par contre, la sagesse vous permet souvent de les éviter. Pour vous donner un exemple, s'il pleut, l'intelligence vous dira de prendre votre parapluie. La sagesse vous aura peut-être fait regarder la météo et éviter de prévoir le pique-nique juste ce jour-là. Donc c'est juste cette petite différence, mais qui peut être absolument énorme. En fait, la plupart des gens recherchent le pouvoir. Ils cherchent à avoir plus de pouvoir, à avoir plus de choses, ou plus de faire, ou plus de capacités. Vous recherchez ce qui est juste. Vous avez cet alignement avec le plan divin, on l'appelle comme on veut, le plan d'évolution de la conscience, peu importe le terme, mais vous cherchez ce qui est juste, ce qui a du sens par rapport à ce qui dépasse votre existence, par rapport à ce qui est lié à l'évolution de la conscience. Et quelque part, la sagesse, c'est ça qui répond à la question de comment apporter plus de lumière. Comment faire des actions, comment suivre des chemins qui sont cohérents avec le tout, qui ne sont pas juste liés aux petites préoccupations de votre ego, mais qui sont liés à faire la chose juste. La plupart des gens s'attachent aux symptômes, mais vous vous attachez aux causes profondes, à ce qui compte vraiment. Et c'est pour ça que souvent les gens viennent vous voir, qu'ils ont peut-être l'impression que vous êtes plus vieux que votre âge, ou peut-être que vous avez une perspective intelligente, pertinente, sage sur les choses, et ils viennent vous demander conseil. Donc ça, c'est un de vos attributs, c'est vraiment cette sagesse qui est votre capacité à être connecté directement, indépendamment d'intermédiaires, de guides ou autres, avec ce flux de la vie, avec cette force, avec la source et le déroulement du plan divin. Autre point, c'est l'empathie, la compassion. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la capacité à être connecté avec les gens, avec les animaux, avec la conscience globale, avec tout ce qui a un champ d'énergie. C'est votre capacité, de même que vous êtes connecté avec la source, vous êtes aussi connecté horizontalement. Donc la source, connexion verticale, horizontalement, la connexion avec tout ce qui a un champ d'énergie. Et comment ça marche? C'est que vous lisez en fait le champ d'énergie, vous avez accès aux pensées, aux émotions, aux expériences de la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que vous lisez quelque part son karma, alors vous en êtes conscient ou pas, et puis vous pouvez aller plus ou moins loin, mais vous lisez son karma, et donc vous avez accès au passé, au présent, mais aussi parfois au futur. Parce que c'est un peu comme dans le film Minority Report, où quelque part on est capable de prévoir le futur en connaissant l'ensemble des règles. Si vous voyez quelqu'un qui fonce avec sa voiture à la direction bloquée contre un mur, même s'il n'a pas atteint le mur, eh bien vous savez, vous pouvez prédire déjà ce qui va se passer. Donc quand vous êtes capable de lire le champ d'énergie, eh bien vous êtes capable de voir les scénarios ou les directions dans lesquelles la personne va. Et donc vous êtes capable de lire des choses. Vous avez accès à des éléments dont la personne, parfois, n'est pas consciente. D'ailleurs, chez vous, cette activité, elle peut être volontaire ou involontaire. Vous n'êtes peut-être pas conscient de votre don et de la façon dont vous l'utilisez. Alors, est-ce que vous êtes empathique? Il y a plusieurs façons de le savoir. Est-ce que vous aidez naturellement les autres? Si c'est le cas, vous avez probablement ce don d'empathie. C'est le cas aussi, souvent, peut-être qu'on vous aborde dans la rue pour un conseil ou une information. Moi, je sais que la notion d'empathie est quelque chose qui est assez développé chez moi, et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je suis dans le métro ou dans la rue, c'est toujours vers moi qu'on s'avance pour demander un conseil ou autre chose. Vous savez, écoutez, vous êtes celui ou celle à qui on raconte ses problèmes, et quelque part, vous avez l'impression peut-être d'être un miroir, parfois vous avez peut-être du mal à voir la frontière entre vous, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, et ce que les autres veulent. Donc d'être cette réflexion des autres qui pose la question de qui vous êtes vraiment, vous avez peut-être l'impression d'être une éponge, d'absorber toute l'information, d'absorber toutes ces sensations, ou d'être peut-être un paratonnerre, d'être celui à travers lequel toutes ces énergies négatives passent et que vous videz les autres et vous vous retrouvez à les prendre sur vous. Donc cette notion d'empathie, c'est vraiment un travail fort avec l'énergie. Et ça vous donne des qualités. Vous avez probablement des dons créatifs, que ce soit l'écriture, la peinture, la danse, le chant, la sculpture, la poterie, tout ce que vous voulez. Vous recherchez la paix et l'harmonie en vous, pour les autres et sur la terre. Ça, c'est une valeur qui est très importante. Parce que vous ressentez tellement cette souffrance en cas de désharmonie, de conflit, de désaccord. Vous la ressentez peut-être émotionnellement, mais peut-être aussi physiquement, qu'il est important pour vous que les choses soient en paix et en harmonie. Vous avez une compassion naturelle et réelle pour les autres. Vous ne les jugez pas. Vous êtes une personne qui est magnétique, qui attire les autres, qui les aide. Et quand ils sont avec vous, les autres se sentent compris, protégés, acceptés. Ils apprécient ce côté de vous très attachant. Ils se sentent bien en votre présence. Alors maintenant, il y a aussi des dangers à ces talents d'empathie, parce que vous recherchez l'harmonie à tout prix, et parfois c'est à votre détriment. L'harmonie des autres, leur bien-être peut être plus important que le vôtre, parce que vous le ressentez de la même façon. Et donc vous êtes inconfortable avec le conflit, vous pouvez aussi sacrifier vos véritables aspirations, qui vous aident vraiment. Vous êtes perméable, c'est-à-dire que vous confondez parfois votre énergie avec celle des autres, et donc il est facile de vous blesser, il vous est facile aussi de vous sentir mal à l'aise ou désorienté par la réaction d'une personne ou son mode de fonctionnement. Vous êtes sensible aux souffrances globales, aux souffrances de la Terre, du monde. Vous pouvez aussi être instable émotionnellement, vous pouvez avoir cette dépression, mais aussi des crises de colère, des phases hypomaniaques, où vous partez dans un tas de projets, d'enthousiasme et autres, et puis qui retombent. Vous pouvez avoir des troubles du comportement ou de l'identité. Et là, on tombe dans des choses comme l'état limite ou borderline. Vous pouvez avoir des crises de fatigue, des effondrements parfois, où vous êtes incapable de vous lever de votre lit, où vous le faites, mais en faisant un effort énorme, et où après, voilà, les choses reviennent à la normale, mais vous avez ce côté un peu de vie sur les montagnes russes. C'était Albert Camus qui disait quelque chose du genre, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais certaines personnes doivent dépenser des efforts énormes juste pour être normales. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous avez cette souffrance, cette recherche d'harmonie, ces accès de colère ou de dépression ou d'enthousiasme qui retombent, ces accès de fatigue et autres, eh bien sachez que ça vient probablement de ce don que vous avez, qui est de l'empathie, mais qui est un don que vous ne maîtrisez peut-être pas encore bien ou vous n'avez peut-être pas accepté pour ce qu'il est. Vous avez probablement des risques d'addiction. De poids en particulier, parce que la nourriture peut être une bonne protection, ça permet de lutter contre des sentiments dépressifs, des sentiments négatifs, donc vous pouvez avoir des troubles alimentaires. Et c'est quelque chose qui peut être très lourd à porter, en particulier au travail. Moi je sais que il y a certaines situations où je sais que je ne suis pas efficace au travail parce que j'ai un souhait d'harmonie qui n'est pas compatible avec les exigences d'une société qui va être gérée pour le profit ou autre. Donc il y a des choses pour lesquelles je ne serais pas du tout bon. Souvent, il y a plusieurs reprises, plusieurs anecdotes où c'est ressorti en disant voilà, mais concrètement, t'es pas moine, il faut pas que ton boulot, c'est pas d'assurer l'harmonie entre tout le monde. Ben, ma réaction était de dire ben oui, c'est dommage, mais peut-être que je ne suis pas un moine dans des ordres. Par contre, il est important pour moi d'assurer cette harmonie-là, et j'en suis fier. Je ne vois pas ça comme un défaut. Si effectivement certaines personnes sont inconfortables avec ça, c'est leur problème. Mais en attendant, ça fait partie des forces et de ce que je peux apporter. Évidemment, pas dans toute situation, parce que personne n'est bon dans toute situation, mais ça fait partie des choses que je suis capable de faire. Mais je sais que ça demande de la vigilance sur la façon dont je réagis par rapport à certaines situations professionnelles qui peuvent se présenter. Autre point important de l'empathie, c'est surtout le fait de prendre soin de vous. Alors ça, je le dis souvent, je répète particulièrement pour l'empathie, de par ce côté de porosité, de manque parfois peut-être de barrière entre votre énergie et celle des autres. Donc accordez-vous du temps pour vous, ressourcez-vous, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Prenez conscience de vos limites. Vous savez, la charité bien ordonnée, ça commence par soi-même. Si vous n'êtes pas capable de fonctionner correctement, vous n'allez pas pouvoir aider les autres bien longtemps. Et même si vous arrivez à les aider quand même, eh bien, vous ne pourrez pas les aider aussi bien que si vous êtes reposé au mieux de votre forme. Mais ça demande aussi de la prise de conscience des limites, demande parfois de dire non, de refuser ou de sélectionner, de prioriser, parce que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Ça demande de savoir quel est votre combat, quelle est votre guerre, ou quel est votre cadeau, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça demande de savoir à quel endroit vous allez et qu'est-ce que vous voulez véritablement maîtriser et développer. Et pour ça, travaillez votre don, votre créativité. Vous pouvez pratiquer votre don en tant que tel ou à travers des activités artistiques, et vous pouvez le faire sans culpabilité aucune. Ça fait partie de l'entretien de votre don, ça fait partie de qui vous êtes. Créez de la beauté, vivez dans la beauté. Acceptez-vous, acceptez vos émotions et exprimez-les. Donc prenez soin de vous, c'est très important. Alors don numéro 5, l'intuition. L'intuition, c'est sentir sans forcément utiliser des processus logico-rationnels. C'est une connaissance immédiate des choses. Comme ça, comme on voit, on sent, on connaît la solution. Et en fait, l'intuition, c'est une conséquence, là encore, de notre connexion à la source. C'est la capacité à ressentir son énergie et ses fluctuations. Vous vous souvenez de Yoda dans La Guerre des Étoiles? Yoda, il est là, il fait oui, je sens une perturbation dans la force. Et il le ressent, tel que c'est filmé, on voit qu'il le ressent véritablement. Qu'il fait partie de la force, et donc il sent les infimes perturbations à différents endroits. Et en fait, c'est ça, cette intuition, c'est cette connaissance à travers la connexion qu'on a au tout, à la source. Et l'exemple des animaux qui ont cette intuition, c'est que avant une catastrophe, un tremblement de terre, une éruption volcanique, eh bien, ils peuvent fuir et pour aller se réfugier. Un chien peut faire des kilomètres pour retrouver son maître. Et donc, c'est un peu comme si on avait en nous cette espèce de petit Yoda là, connecté, et parfois on l'entend, parfois on l'entend pas. Comme Luke Skywalker, on a jeune Padawan, nous avons des choses à apprendre. Mais il n'empêche que cette intuition, elle existe. Et d'ailleurs, je crois fondamentalement qu'elle était indispensable à la survie de l'homme préhistorique. Elle était beaucoup plus développée à l'époque. On n'avait pas forcément les capacités cognitives, capacités de langage et d'analyse logico-mathématique qu'on a maintenant, mais en même temps, on avait peut-être une connexion plus grande au flux de la vie, et c'est ça qui nous a permis de survivre alors qu'on n'avait finalement rien pour nous, de savoir où étaient les points d'eau, de savoir où était le gibier, comment éviter les endroits dangereux pour s'abriter, etc., etc. Donc, l'intuition, c'est se brancher sur l'intelligence de la source. Et je vous l'ai dit, la source est intelligente, la vie est un flux intelligent. C'est comme le souffle du vent ou le souffle des marées, il y a un courant, il y a une façon de fonctionner et on peut se connecter à ce courant ou pas, être en harmonie avec ce courant ou pas. Et en fait, c'est la meilleure image, je trouve, c'est l'image de la force, comme dans Star Wars, c'est ce flux d'énergie qui regroupe tout et qui a toute cette information et auquel les Jedi peuvent se connecter. Et en fait, ce flux agit sur ce qui vit. C'est lui qui assure l'harmonie des écosystèmes, la forme de nos corps ou les feuilles des arbres, parce que ces formes, en fait, elles ne sont pas dans la néenne. Elles sont dans une intelligence énergétique qui n'est pas dans de la formule chimique de l'ADN. C'est elle aussi qui assure l'évolution des espèces, les synchronicités de nos vies. Il y a un côté extraordinaire quand on s'abandonne dans le lâcher-prise et on voit que les choses se mettent en place miraculeusement. Il y a une magie de la vie. Et ça, c'est lié à cette mécanique, cette machine, cet écosystème extraordinaire qui fait que, ben oui, l'écureuil va trouver des noisettes au moment où il en a besoin, il va les stocker, les récupérera pour l'hiver, etc., etc. Donc il y a cette même intelligence à l'œuvre, et c'est l'un des grands mystères de la vie. Et c'est quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine. Peut-être qu'on comprendrait mieux si on était des fourmis, parce qu'on aurait cette intelligence collective, mais c'est cet alignement, ce fonctionnement avec cette mer d'énergie, ce flux d'énergie, et qui organise tout d'une façon à la fois libre, dans la liberté, en laissant à chacun être qui il est, et en même temps dans un acte de création, et donc un acte d'intention, un acte de volonté. Donc les mots me manquent pour vraiment décrire ça, mais pour moi c'est un miracle extraordinaire qu'on prend finalement pour banal, qu'on prend pour acquis. Mais il y a une intelligence à l'œuvre derrière tout ça qui dépasse notre entendement. Et donc en fait la médiumnité, c'est la capacité à sentir ce flux, et à le déchiffrer pour les autres. Cette capacité à avoir cette intuition pour nous, mais aussi l'appliquer pour les autres. Donc c'est vraiment se brancher sur l'intelligence de la source. Et la réalité, c'est que votre intuition vous guide déjà. On parlait des messages dans les rêves, dans la rue, dans les propos d'un proche, dans ce que vous lisez. Et il y a cette idée que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Alors, pendant un moment, je pensais que c'était... Voilà, ben finalement, c'était exactement ça, c'était littéral. Quand on est prêt, ben on va tomber sur le livre qui va bien, ou on va faire la rencontre qui va bien, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est que, en fait, les enseignements dont nous avons besoin sont toujours autour de nous, sans arrêt en permanence. C'est juste que nous ne sommes pas capables de les voir. Et c'est uniquement quand nous avons fait ce travail intérieur, que nous avons peut-être mis un peu sur la pointe des pieds, que là nous avons une autre perspective et que nous pouvons voir les choses telles qu'elles sont. Donc en fait, c'est pas tant quand l'élève est prêt, le maître arrive, c'est quand l'élève est prêt, eh bien il voit le maître qui avait toujours été là dans ses yeux. Et souvent, combien de fois on retrouve un vieux livre qu'on avait lu, qu'on n'avait pas compris, qui d'un seul coup nous éclaire? Ou combien de fois, eh bien, on avait toujours connu quelqu'un ou s'est dit, tiens, il faudra que je parle à cette personne et autres. Et quand on est prêt à le faire, eh bien, d'un seul coup, ça nous ouvre des opportunités. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le flux de la vie, c'est ces miracles qui se produisent. Il y a une question aussi avec l'intuition de capacité de manifestation naturelle. Et c'est lié au sixième sens, c'est-à-dire la capacité à influer sur ce flux de la vie, d'une certaine façon. Parce que, alors ça nous amènerait trop loin, mais si effectivement il y a un flux de la vie qui est énergétique, si nous sommes capables d'influer sur notre énergie, eh bien, nous pouvons, à travers notre énergie, influer sur ce flux de la vie. Quelque part, prendre la voie de Dieu ou de l'univers. Donc si nous comprenons ces règles, si nous pouvons les utiliser pour nous, par rapport à nos intentions, eh bien, quelque part, l'univers est à notre service, comme nous sommes au service de l'univers. Donc, quand on a ce sixième sens, on a cette capacité à sentir le flux, mais aussi à remettre de l'information dans ce flux et à l'utiliser. Et c'est toute la question de la manifestation, parce que on se rend compte qu'il y a des choses étonnantes qui se passent, on les voulait et en fait elles se produisent. Par contre, il y a une réponse à laquelle je n'ai pas, c'est est-ce que elles se produisent parce qu'on les veut, ou alors est-ce qu'on les veut parce qu'on a senti qu'elles allaient arriver, que c'était aligné, et donc quelque part, on les a voulu dans une logique d'abandon et de participation au plan divin. Et quelque part, c'est un peu des deux. C'est un peu l'œuf et la poule, c'est que on sent des choses, donc on désire être aligné avec ce flux, et comme on est aligné avec ce flux et qu'on met des intentions, eh bien ces intentions se manifestent. Donc ça aussi, c'est un des miracles de la vie. Et on connaît tous des exemples de gens qui n'ont pas pris un avion ou un bus ou qui ont reporté un voyage et qui ont évité en fait des catastrophes ou des problèmes. Donc cette intuition, elle existe, elle est là sans arrêt. Moi, je sais qu'à un moment, il y avait un événement que je devais faire et je voulais l'annuler. Et en fait, je me disais non, je peux pas, je vais décevoir plein de gens et autres. Et j'avais une espèce d'anxiété terrible. Et il se trouve en fait que j'aurais dû annuler cet événement parce que, et alors, là encore, j'étais pas bien, mais est-ce que j'étais pas bien parce que j'étais pas aligné avec cet événement, ou est-ce que voilà, ou est-ce que finalement le fait que je sois pas bien a fait que cet événement s'est pas passé comme je l'aurais voulu, j'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est que il y avait cette intuition et il y avait ces éléments, et que souvent, parfois nous entendons, nous n'agissons pas dessus. On manque parfois peut-être de confiance par rapport à ce qu'on reçoit. Mais par contre, notre intuition, elle est là et elle nous guide. La question, c'est pourquoi est-ce que ça ne marche pas toujours? Il y a des choses qui nous bloquent. Parce que l'information de la source, à la base, elle est pure, elle est fiable. Et en tant que médium, channel, personne intuitive, etc., vous êtes un transmetteur, vous êtes aussi un traducteur, vous êtes un filtre. Et donc vous avez une intuition qui est développée. Mais le problème, c'est que votre ego est sur votre chemin. Donc tout ce qui est la crainte, tout ce qui est la peur, tout ce qui est toutes ces émotions négatives, aussi vos projections, vos ambitions, quelque part, on a tendance à prendre nos désirs pour des réalités, on a tendance à projeter dans ce qu'on croit qu'on veut. Parfois, on a tendance à projeter ce qu'on croit qu'on veut dans des messages qu'on reçoit, et en fait, on vient polluer tout ça. Tout ce qui est notre peur, nos opinions, nos jugements. Et ça peut créer des distorsions. C'est un peu du loss in translation. Comme si, parce que finalement, ces messages-là, ce sont des symboles. Donc l'interprétation des symboles, c'est pas simple. Si vous regardez la difficulté et le temps qu'il a fallu pour déchiffrer les hiéroglyphes, si vous allez au Japon sans son guide de l'apprentissage de la langue, vous allez avoir du mal à déchiffrer les hiéroglyphes, à déchiffrer les idéogrammes et autres. Donc ça va être. Donc cette communication avec les symboles est quelque chose de compliqué. Et si on n'a pas un esprit qui est pur et clair, eh bien nous projetons plein de choses sur ces symboles et sur ces signes. Et donc au-delà des distorsions, ça peut créer de la souffrance. Parce que si vous savez que vous devez faire quelque chose, au fond de vous, vous avez ce désir ardent, mais en même temps vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas agir. Vous vous retrouvez coincé, vous avez peur, vous êtes. Eh bien, ça crée une accumulation d'énergie et qui peut vous rendre malade, psychiquement, mais aussi physiquement. C'est la raison pour laquelle il est par exemple très difficile de travailler avec un médium avec qui vous avez des relations personnelles. De même qu'un médecin n'opérera pas son propre enfant. Parce que l'affection, l'affectif, les relations qu'on peut avoir avec quelqu'un, cette relation émotionnelle forte, eh bien, vient perturber le jugement. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui sont, on va dire, médiums, voyantes et autres, et qui commencent à développer une relation d'amitié, une relation émotionnelle forte avec leur consultant, eh bien, font pour moi une erreur professionnelle parce que ça va forcément biaiser leur jugement. Et je pense qu'elles surestiment la maîtrise de leur don. Même les médecins les plus compétents, les plus évolués, refusent de traiter les membres de leur famille parce qu'ils savent qu'ils ne seront ils ne seront pas objectifs et donc ils ne feront pas forcément la chose qui est la meilleure pour leur patiente ou pour leur patient. Donc ce point-là, très important. Faites attention à votre ego, à toutes vos projections. Et si vous avez des relations avec des gens qui sont médiums hautes, ou si vous-même vous pratiquez ce genre de choses et que vous avez des relations trop intimes ou trop amicales avec certaines des personnes que vous accompagnez, regardez avec esprit critique votre pratique et la façon dont vous traitez cette relation. Alors, comment développer votre intuition? Déjà, il faut la reconnaître et la développer, mais il y a plusieurs conseils. Évidemment, faites confiance à la source et à ses messagers. Alors, ça se fait pas à pas. Il ne s'agit pas de se précipiter dans le vide uniquement parce qu'on a entendu une petite voix. Donc, ça demande de bien déchiffrer les choses, de savoir d'où viennent les informations et de construire cette confiance. Protégez-vous et purifiez-vous, indispensable. Gardez l'esprit ouvert. Acceptez que des choses puissent se passer. Acceptez de ne pas forcément avoir le contrôle total ou la connaissance totale. Reconnaissez l'influence de l'ego. C'est-à-dire la peur, le manque de confiance, etc. Lâchez prise de tout ça. Donc, adoptez plutôt un esprit d'unité plutôt qu'un esprit de séparation, un esprit d'amour plutôt que de peur, de confiance plutôt que de doute. Donc, vraiment, c'est une décision que vous faites de vous placer plus du côté de la conscience, de la source, de l'amour plutôt que du côté de l'ego. Soyez attentif aux signes. Toutes vos sensations, ce qui vous semble pas juste, pas normal, ce qui vous semble un peu bizarre, vous pouvez peut-être voir certains éléments plus lumineux que d'autres, vous pouvez avoir l'impression que certaines phrases ont des connotations particulières. Tout ce qui est les messages psychiques, les migraines, mal à l'estomac, des irritations de la peau, tous ces éléments-là sont importants. Gardez aussi une attitude méditative, une espèce de calme, d'observateur calme et neutre. Oui, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais ok, vous allez recevoir des messages. À quel point ce message est-il pertinent par rapport à ce que vous savez? Il ne s'agit pas de tout croire aveuglément, mais simplement de regarder, de considérer ça comme des hypothèses et de les confronter par rapport à la réalité, par rapport à vos connaissances. Soyez prêt à prendre des risques calculés, parce que si vous recevez des messages et que vous n'agissez pas, ben, ça ne sert pas à grand-chose, mais si en même temps, sur un coup de tête, suite à un message, vous avez un coup de tête et vous plaquez tout, femme, enfant, boulot, pour partir au milieu de la jungle, alors qu'on vous disait juste d'aller faire une balade en famille, ça va faire un problème. Donc, il est important de prendre des risques calculés, de faire des expériences pour voir comment les choses se passent. Et puis surtout, eh bien, ne vous attachez pas à un résultat en particulier. Encore une fois, on a souvent une vision très très limitée des choses. Si on voyait le chemin d'en haut, eh bien on se rendrait compte des choses trappes, des passages qui nous font perdre du temps, des sirènes le long du chemin, etc., etc. Donc, il est important de prendre du recul, de pas s'attacher à un résultat et d'avoir confiance dans le processus, en se disant que ben voilà, on voulait telle chose, elle s'est pas produite, et bien finalement, peut-être que c'est mieux. Où on a fait telle chose, c'était un échec, bah oui, c'est un apprentissage. Donc il y a ce côté de confiance dans le chemin et que c'est un chemin sur lequel nous apprenons et un chemin qui nous apporte. Et c'est cette expérience qui compte. Et que finalement, ce flux de la vie, ce flux extraordinaire dans lequel nous baignons, eh bien, prend soin de nous et nous donne l'expérience dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Alors, don complémentaire, la confiance, l'espoir et la foi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Matrix, vous savez, où Neo a la possibilité entre la pilule bleue et la pilule rouge, et en gros, et qui est le symbole de rester dans le méta d'esprit endormi, ou au contraire d'aller vers l'éveil et la conscience. Et c'est ça, c'est le fait de savoir qu'il existe quelque chose au-delà des apparences. Et vous avez le pouvoir de croire et d'espérer, de croire que il y a une continuation de la conscience, de croire que cette incarnation fait partie de votre expérience de vie. Et vous avez le pouvoir de croire et d'espérer au-delà de ce que nous disent nos cultures, qui ont tendance à nous dire, ben non, finalement, consommer, travailler, consommer, mourir, faites tourner la machine économique. Vous savez, le pouvoir de croire qu'il y a autre chose au-delà de tout ça. Vous savez qu'il existe quelque chose au-delà de vos cinq sens. Alors bien évidemment, vous avez le doute. Il y a toujours le doute parce que vous luttez contre les conditionnements de la société et de la culture. C'est un poids tellement énorme, tellement lourd. C'est normal qu'il y ait du doute et des interrogations. Et vous ne pouvez pas non plus croire tout et n'importe quoi, surtout notre époque de science et notre époque rationnelle. Mais vous avez la foi au fond de vous. Et bien évidemment, vous devez passer par un réapprentissage nécessaire. C'est ce qu'on appelle le gouverneur, c'est ce qui vous permet de fonctionner dans cette dimension et qui vous bloque l'accès à certaines expériences. Donc il y a ce besoin d'avancer, de tester, de pousser les limites petit à petit, de réapprendre. Mais il y a une partie de vous qui sait. Et sans croyance, sans connexion, et bien vous êtes un bateau sans boussole, vous êtes une fleur sans soleil, vous êtes perdu. Mais par contre, au fond de vous, il y a toujours cette connexion avec votre navigateur, toujours cette foi, cette espérance, cette lumière. Et vous n'êtes pas fou. C'est la vérité de ce qui est qui vous libérera. C'est le fait de dire, ok, j'accepte, je comprends intellectuellement, mais aussi dans mon cœur, dans mon âme, ce qui se passe. Je comprends je vois la pièce, je vois le décor, je vois les coulisses, et je ne crois pas que le film est la réalité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement libérateur. Donc, croyez, évidemment, par rapport à ce que vous pouvez croire, par rapport à vos expériences, par rapport à vos connaissances. Connectez-vous à votre source, vivez vos expériences. Et surtout, diffusez votre espoir autour de vous, parce que vous avez cet espoir, c'est quelque chose d'extraordinaire que tout le monde n'a pas. Vous avez cette confiance au fond de vous, même si parfois elle est un peu enfouie, mais vous avez cette confiance au fond de vous. Donc, diffusez cet espoir autour de vous, c'est un magnifique cadeau que vous pouvez faire à ceux que vous aimez et au-delà. Alors maintenant, parlons du septième don, transcender la mort. Alors, vous savez que votre existence est plus vaste que votre incarnation actuelle. J'ai eu une vision dont je parle souvent qui est de... Je voyais, j'étais dans Focus 15, donc State of No Time, l'état où le temps n'existe pas, au Monroe Institute. Et en fait, dans cet état où le temps n'existe pas, j'ai vu ces deux brins, un peu comme des brins d'ADN, enroulés. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces deux brins? Et là, on m'a expliqué, en disant, voilà, tu sais, l'un des brins, c'est la conscience de l'univers, et l'autre brin, c'est ta conscience à toi. Et en fait, il y a ce flux de conscience qui passe, et les deux fonctionnent ensemble, et sont infinis, quelque part, et s'étalent à travers le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que je pouvais zoomer en fait sur les différentes parties du brin d'ADN et j'avais accès à différentes expériences que j'avais pu vivre. Donc c'était assez marquant. Et ça m'a permis de répondre à une de mes questions qui était est-ce qu'il y a une continuité de la conscience ou pas? Et la réponse est oui. Oui, il y a une continuité de la conscience. Et votre existence est plus vaste que votre incarnation actuelle. Alors, et certains messagers de lumière, pour cette raison, ont la possibilité de se connecter avec les gens qui sont partis, qui continuent leur voyage. C'est pas parce qu'ils sont morts ici qu'ils ont disparu totalement, non, ils sont sur d'autres, dans d'autres parties de leur existence, soit incarnés, soit pas, mais il y a cette possibilité de se connecter. Et donc, certains messagers de lumière ont la capacité de glisser une tête à travers la porte de la mort. Alors, qui pouvez-vous contacter? Eh bien entendu, des personnes proches disparues. Alors, je dissipe un mythe, hein, souvent on se dit, ah ben oui, je vais demander à grand-père qu'est-ce que je dois faire avec ma femme. Grand-père a peut-être pas plus d'idées que vous, d'accord? Ils peuvent pas forcément vous aider ni prédire l'avenir. Ils se voient peut-être un peu plus haut que vous parce qu'ils ont sorti la tête du guidon. Par contre, c'est pas pour ça qu'ils sont forcément plus sages ou plus évolués ou autres. Si grand-père était un coureur de jupons invétéré, c'est peut-être un trait qu'il a gardé de son incarnation et il vous dira, ben, largue là et vis une vie, largue ta femme et vis une vie où tu profites de la vie en faisant toutes les rencontres que tu veux. Donc, c'est pas parce qu'ils sont morts que d'un seul coup et qu'ils sont passés à autre chose que d'un seul coup ils sont devenus plus sages ou plus clairvoyants ou autres. Donc, Donc ça, c'est un point important. Vous pouvez rentrer en contact avec des personnes proches disparues, mais elles ne peuvent pas forcément vous aider. Elles peuvent vous donner un éclairage de par leur expérience, mais pas autant que des guides qui pourraient avoir une vision plus globale et complète des choses. Vous pouvez rencontrer des vagabonds astraux, c'est-à-dire des âmes qui, pour une raison ou une autre, sont entre deux eaux. Par exemple, ça peut être des gens qui ont des addictions à l'alcool, au tabac ou à certains éléments matériels et qui restent sur le plan terrestre. Ça peut être aussi des gens qui sont très attachés à certaines personnes, et tant qu'elles sont sur le plan terrestre, elles restent. Donc voilà, et puis vous avez donc un tas de choses là-dessus. Vous avez des êtres en transition qui cherchent à accéder à plus de lumière, des gens qui, par exemple, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont morts, et qui, voilà, qui attendent et qui veulent aller vers la lumière, mais qui sont confus, en fait, sur ce qui leur arrive. Vous avez des entités positives et d'autres qui sont négatives. Donc en fait, c'est un peu comme si vous plongiez dans l'océan, vous avez tout un tas de poissons. Et c'est parfois un peu dur de faire le tri. Donc pour ça, quelques précautions. Donc attention à votre énergie, elle conditionne qui vous attirez, et ce qui est là-haut n'est pas forcément bien intentionné. Donc faites preuve d'esprit critique, et si vous avez des difficultés personnelles, faites particulièrement attention. Si vous plongez dans l'océan, dans un coin infesté de requins, avec une blessure, c'est clair que l'odeur du sang va attirer tous les requins, et vous allez vous retrouver déchiqueté. C'est pas de la faute des requins. C'est juste vous qui plongez au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, faites attention, protégez-vous, et plus votre lumière est élevée, plus votre fréquence est élevée, et plus vous allez rencontrer des êtres de lumière positifs. Assurez-vous donc pour ça de vos intentions, soignez, aidez, élevez, guidez les autres. Toutes les notions d'enrichissement personnel, d'accès à des sources de pouvoir, etc., en fait, souvent, vous amènent des entités qui sont dans ces mêmes vibrations, avec qui, parfois, vous pouvez peut-être faire des accords et autres, mais qui finiront par vous consumer ou vous créer des problèmes. Donc, attention à ça. Protégez-vous, clarifiez votre canal, attention à vos filtres, votre ego, faites preuve d'humilité. Soyez toujours très humble par rapport à tout ça, toujours un esprit critique par rapport à ce qui peut vous arriver, ce que vous pouvez rencontrer. Travaillez votre talent, bien évidemment, parce que même si vous avez un talent ou certaines capacités, eh bien c'est par la maîtrise que vous développerez, par l'entraînement que vous développerez la maîtrise. Travaillez tout ce qui est communication énergétique, ça vaut pour tout ce qui est signes, connexions et autres. Comment on lit des symboles? Comment est-ce qu'on communique quand il n'y a pas de mots? Quand quelqu'un vous envoie des images, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Est-ce que vous recevez l'image d'une vieille femme parce que ça fait penser à une grand-mère? Est-ce que vous recevez l'image d'une montagne parce que c'est la montagne en elle-même ou parce que c'est un symbole, on va dire, de force et de permanence? Donc il est important de développer quelque part votre propre langage, votre propre système de référence. Et à mesure que vous travaillez là-dedans, vous êtes assisté, vous êtes aidé. Et donc il y a un apprentissage commun des systèmes de référence, un peu par essai-erreur. Et donc vous développez vos capacités. C'est pour ça qu'il est important d'établir un partenariat avec le monde de la lumière. Et donc, vous allez avoir, plus vous travaillez ça, plus vous allez avoir de l'aide. Vous pouvez avoir aussi des entités qui viennent vous aider à organiser ces dialogues. Des entités, certaines, voilà, qui jouent le rôle de gardien de la porte, un peu de passage, de facilitation du passage et d'organisation du passage entre notre monde matériel et le monde spirituel. Voilà pour ces éléments, voilà pour vos dons. Donc depuis la sensibilité, l'empathie, la compassion, la sagesse, capacité à voir au-delà des frontières de la mort, etc. Donc ce sont des armes extrêmement puissantes à bien développer, à bien maîtriser, à bien travailler. Alors évidemment, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout travailler à la fois, mais il est important d'être conscient de vos dons principaux, d'être conscient de l'endroit où vous voulez aller, de comment vous les utilisez, et donc de les travailler en fonction. J'aimerais maintenant vous expliquer comment vous pouvez utiliser vos dons, vos talents, et accomplir pleinement votre rôle. Alors avant ça, je vous propose de faire une petite pause et je vous retrouve tout de suite après pour la troisième et dernière partie de cette conférence. Merci, à tout de suite.